This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. A priori, s'il est un secteur qu'on imagine comme peu sensible à la technologie, c'est bien celui du luxe. Assembler des pièces de joaillerie, des montres ultra compliquées ou de la maroquinerie haut de gamme semble être surtout l'apanage d'artisans d'élite. En fait, la technologie a investi le secteur du luxe comme le reste. Son rôle y est même essentiel. Un homme connaît cela sur le bout des doigts. Michael Valentin est un consultant industriel qui était déjà venu dans Contrôle F pour parler de Tesla. Mais parmi ses clients, il compte aussi la plupart des grandes marques de luxe européennes comme Hermès, LVMH ou Richemont. Pour elle, la technologie est désormais partout, dans la conception des produits afin de réduire le temps de mise sur le marché et de lutter contre une concurrence asiatique agressive. La technologie s'est aussi insinuée dans la distribution par Internet qui a explosé pendant le Covid. Les grandes marques doivent aussi prendre en compte des impératifs plus contemporains comme l'impact environnemental et humain pour s'assurer que toute la chaîne de fabrication est respectueuse de l'éthique. Mais c'est surtout l'usage de la donnée qui est impressionnant. Le luxe s'est en fait largement inspiré des techniques d'analyse des clients développées par les GAFAM qui savent avec précision qui achète quoi et même qui a envie de quoi. Dans cet épisode de Contrôle F, Michael Valentin nous explique comment le secteur du luxe a développé un usage très sophistiqué de l'arsenal technologique. C'est parti. Bonjour Michael.
Bonjour.
Je t'ai invité parce que lorsqu'on s'est vu au mois de juin dernier, tu nous avais parlé de Tesla et tu m'avais raconté que tu travaillais pour l'industrie du luxe et tu m'avais expliqué comment la technologie avait ces dernières années très fortement pénétrer l'industrie du luxe. Si on fait une décomposition justement par secteur entre l'habillement, la haute couture, la joaillerie, dans la joaillerie, j'imagine qu'il y a plein d'autres subdivisions, que ce soit les bijoux, les montres. Quelles sont les grandes masses ?
Alors les grandes masses, en fait, dans le luxe, il y a évidemment la maroquinerie qui est un peu le secteur aussi d'excellence. Alors tout ce qui va être lié au cuir, la maroquinerie, c'est à la fois les sacs, les valises. Donc ça, c'est une masse assez importante. La deuxième masse, ce sont les montres, donc l'horlogerie et la joaillerie. À la fois en volume, mais surtout en croissance, la joaillerie est un secteur qui croît énormément. C'est un marché à la fois où les marques sont en train de reprendre une partie du marché et en plus qui est en très forte croissance, tiré beaucoup par les Chinois, notamment par l'Asie en général et par, grosso modo, un peu partout dans le monde. C'est un marché qui croît depuis une quinzaine d'années, fortement. Et puis la dernière masse, c'est effectivement la mode, alors qui est très important pour certaines maisons qui se sont faites là-dessus. Donc on pense notamment à Chanel et qui sont spécialisées dans la mode. Et en fait, au-delà des quelques produits qu'on voit dans les défilés qui sont très chers, ça va derrière infuser dans l'image qu'a la marque et puis qui va lui permettre à la marque aussi de vendre tout un tas d'autres produits.
Donc quand on pense à ce secteur, effectivement, on va d'abord penser aux artisans, à toutes les images de ces artisans. A priori, c'est quand même relativement contre-intuitif de voir la tech rentrer sur ce secteur.
Effectivement, on ne voit pas tellement le lien entre ça et puis la tech qui fait plutôt un symbole de modernité. Voilà. En revanche, il y a quand même pas mal de ponts entre les deux secteurs. Certains ponts qui sont évidents et puis d'autres qui sont un peu contre-intuitifs. Un des ponts, par exemple, c'est qu'un des gros points communs entre les deux, c'est la créativité. Donc, il faut bien comprendre ce que les gens veulent. Et cette capacité à donner une expérience qui est intéressante pour les gens, c'est aussi ce que les acteurs du luxe traditionnellement font, puisqu'ils ont ce côté produit iconique qui fait que quand on rentre dans une boutique ou quand on achète un produit, c'est un produit dont on a rêvé pendant très longtemps et donc qui nous procure une expérience de vie qui nous fait rêver quelque part. Oui. Finalement, dans la philosophie, on a cet aspect créativité, cet aspect volonté de donner une expérience aux consommateurs qui est assez commune et qui fait qu'il y a quand même des ponts entre le fait d'utiliser le digital et le fait d'aller créer un produit qui est différenciant et qui fait rêver en fait les masses.
Est-ce que ça veut dire que les industriels du luxe sont passés d'une démarche relativement intuitive pour comprendre le besoin de leurs clients potentiels à quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus industriel, de beaucoup plus analysé en quelque sorte ? Mais donne-nous des exemples. En quoi ça a influé sur la gamme Hermès ou sur un horloger ?
Déjà, il faut distinguer, je pense, dans le luxe, ce qui va être plutôt premium et donc qui va être plutôt destiné à du mass market, à la classe moyenne. Oui. Et puis le très haut de gamme. Donc, on a des maisons comme Hermès qui se positionnent plutôt sur du assez haut de gamme. Et eux, ils vont encore rester dans une culture quand même de « je fais un produit, c'est moi qui fais la mode », entre guillemets.
Voilà,
c'est plutôt
je donne le ton.
Historiquement, c'est plutôt moi qui fais la mode. Ça reste quand même un peu la tendance, puisque ces maisons-là sont les détentières du bon goût, entre guillemets. Ceci étant dit, il y a eu une évolution assez forte ces 20 dernières années et le Covid a accéléré ça. a forcé en fait ces maisons à se poser la question de d'un espèce de rééquilibrage vers quelque chose de très vertical qui vient de la marque et qui pousse des choses versus quelque chose d'un peu plus équilibré où on va quand même comprendre ce que les clients, les consommateurs veulent et quelles sont les tendances. Parce qu'en fait, on voit justement ces GAFA qui quand même arrivent sur certaines branches de ce secteur, oui. comme la montre connectée, etc. Et puis pendant le Covid, ce qui s'est surtout passé, c'est qu'on ne pouvait plus vendre en boutique. Et donc, il y a certains canaux, comme le e-commerce, ont explosé. Et ils n'ont pas explosé seulement sur les produits de grande consommation, ils ont explosé sur le luxe aussi. Juste un chiffre, en 2019, le e-commerce représentait 12% des ventes des produits de luxe, donc ça restait marginal.
Oui.
Et la prévision, c'est qu'en 2025, ça représentera plus de 30% des ventes de produits de luxe seront faites par Internet. Et donc, c'est le principal canal de vente, en fait, de ces produits-là.
Et les gens vont acheter des articles à combien ? Parce que c'est, quand on pense commerce électronique, on pense articles relativement cheap. Or, est-ce que les gens vont acheter une montre à 2000 balles, une bague à 5000 ?
Alors, ça va dépendre, bien entendu, du persona, en fait, du type de
personne.
Voilà, mais là, on voit de plus en plus de jeunes qui ont de l'argent. Donc, il y a une partie des jeunes qui sont des entrepreneurs, etc., qui ont de l'argent. Et puis, on a aussi tout ce qui arrive de Chine, hein, où il y a une partie des gens qui ont largement les moyens de s'acheter des produits de luxe. Ces gens-là, comme ils sont nés dans le digital, notamment en Asie, ils font tout par leur téléphone. Et du coup, c'est assez naturel d'acheter des produits sur une plateforme. Et il n'y a pas forcément cette barrière qu'on a encore un peu, je pense, en Europe ou en France, où on achète quelque chose d'assez cher, on va plutôt aller rencontrer une personne physique. Et donc, il y a encore des produits assez chers qui peuvent être achetés sur la plateforme. Alors, ça va de montres de 3 à 10 000 euros jusqu'à des montres qui valent même 100 000 euros. Donc, ça peut se faire sur Internet. Comme si on fait le parallèle, vous pouvez acheter une Tesla dans une concession, mais la plupart des Teslas sont achetés sur Internet en 4 clics.
Totalement.
Littéralement.
Ouais.
C'est la même chose, si on veut, sur une montre de luxe.
Mais Tesla, si on fait le parallèle, Tesla a quand même eu, me semble-t-il, l'intelligence de développer des showrooms. Est-ce que le luxe a encore quand même des boutiques où on peut regarder la marchandise?
Alors oui, c'est très important ce que tu dis et je renforcerai même mes messages en disant qu'il n'y a pas d'un côté Internet et de l'autre côté les boutiques,
ouais.
C'est un continuum. C'est
d'accord.
Ça. Idéalement, vous avez votre client qui va sur Internet, qui fait une recherche Google en disant « je veux un sac comme ci, comme ça ». Quand la personne arrive en boutique, ce que vous voudriez avoir, après avec la barrière de RGPD, mais vous voudriez être capable, quand la personne rentre dans la boutique, de savoir qu'elle est allée sur Google. Donc ça, c'est parce que vous voulez mieux connaître votre client. Et c'est ça que les maisons de luxe essayent de faire maintenant, c'est aussi de mieux connaître leurs clients tout en respectant la confidentialité pour pouvoir bien les servir. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir d'un côté les boutiques, de l'autre côté Internet, mais d'avoir bien quelque chose de constant. Et souvent, les gens, que ce soit du luxe ou pas, repartent à la maison et parfois achètent sur Internet en ayant essayé le produit, en se faisant conseiller. Donc, c'est ça que les marques essayent de créer. Et puis, à côté de ça, il faut que l'image de la marque soit la même sur Internet et que vous soyez capable de proposer aussi quelque chose de simple et de facile à utiliser, comme le font les Tesla, etc. Il faut que ça ressemble finalement au site de ce qu'on utilise quand on utilise un produit de la tech, quoi.
Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, marketing. Est-ce
ouais.
qu'il y a des éléments mesurables? Est-ce que des analyses ont été faites pour évaluer l'impact de ces progrès dans le domaine marketing?
En fait, on voit que ces maisons s'intéressent aussi notamment à tout ce qui va être l'économie circulaire pour des raisons de transition environnementale, mais aussi pour des raisons que ces maisons-là doivent prendre ce virage-là. C'est hyper important parce que la jeune génération, c'est hyper important pour elle de s'intéresser à la durabilité des produits, de s'assurer que les maisons dans lesquelles, les marques dans lesquelles elles achètent des produits vont respecter l'environnement et la transition. Et donc,
même pour le luxe, c'est-à-dire que cette prise de conscience s'applique également au bien de luxe.
Je pense qu'elle s'applique très particulièrement au luxe parce que le luxe, c'est un aspect très culturel. Et donc, si les maisons contribuent à la culture, il serait hyper contradictoire, voire contre-productif pour elles, d'avoir une image qui ne respecte pas l'environnement.
D'accord.
Donc, il y a un effort qui est fait aussi sur la partie industrielle pour s'assurer qu'on va respecter une certaine traçabilité qui est éthique, qu'on va fabriquer en local, qu'on va fabriquer en minimisant l'impact CO2 de la fabrication qu'on va faire. Donc ça, c'est sur l'aspect vraiment flux de fabrication. Et puis après, même sur l'aspect vente et canal de vente, de plus en plus, on a des plateformes qui permettent de revendre aussi des produits de luxe. Donc un produit de luxe, c'est plutôt fait pour durer. J'achète une montre
ah
que
oui.
je transmettrai. Mais il y a quand même un marché de seconde main qui existe maintenant.
D'accord, donc les marques de luxe vont remonter ou redescendre, ça dépend du point
oui.
de vue dont on se place, dans la chaîne de valeur pour créer en quelque sorte des places de marché.
Exactement, et c'est là où ça connecte avec la donnée.
D'accord.
Parce qu'en fait, si vous prenez, je prends un exemple, une plateforme comme Watchfinder, qui appartient à Richemont, hein, qui est une plateforme de seconde main de montres. C'est une plateforme en fait, qui va vous permettre, si vous voulez acheter une montre de luxe, d'acheter potentiellement une montre d'occasion. C'est un peu comme Back Market pour l'euro
oui.
électronique.
Dans un environnement sécurisé.
Dans un environnement sécurisé voilà, où vous êtes sûr que
important.
La montre, elle a une garantie en plus. Mmh. Et donc ça, c'est l'avantage pour le consommateur. Ça permet d'inciter à la durabilité des produits et de
ouais.
les réutiliser. Mais pour la maison, ce qui est hyper intéressant pour la marque, c'est qu'elle capture des données du coup sur les goûts des gens. Donc vous pouvez savoir sur le marché anglais qui sont les personnes qui vont acheter des Rolex, même si en fait la plateforme est détenue par Richemont par exemple.
Oui.
Donc ça vous donne des informations sur vos
bien
concurrents.
Sûr.
Donc c'est
d'accord.
là où on retrouve un peu la façon de voir des GAFAM qui sont très forts là-dessus pour créer des plateformes où en fait leurs concurrents sont sur leur plateforme. Et du coup, ils sont capables de comprendre la concurrence. C'est ce que fait
donc,
beaucoup Amazon, en fait.
Oui, bien sûr. C'est le cœur du business d'Amazon.
Ouais.
Donc, pour être très concret, les marques vont regarder de façon extrêmement précise sur leur site quel est le parcours client, oui. quels sont les modèles qui sont regardés par tel client, quelle est la gamme de prix qu'ils envisagent, de façon à... Ils font du profiling, en quelque sorte.
Alors, ils font du profiling. Après, il y a toutes les contraintes qu'on peut avoir en Europe, ouais, les RGPD, qui sont des contraintes compréhensibles.
Ça permet déjà de faire pas mal de choses.
Mais Ça permet, comme le font les GAFAM et comme le fait Tesla beaucoup, en comprenant les comportements d'achat et puis même idéalement le comportement tout court de mes consommateurs, de proposer des montres qui sont de plus en plus adaptées. Donc c'est là où on peut se poser la question de est-ce qu'on va faire des montres connectées, est-ce qu'on va faire des montres plus chères, moins chères, quel type de mouvement on va mettre, est-ce qu'on met du quartz sur des montres. Et idéalement, ce que vous voulez, c'est avoir en permanence de l'info, comme le fait Tesla, sur ce que font les clients pour en permanence proposer des collections adaptées, faire de plus en plus de collections et puis aller vraiment chez vos clients.
Ouais. Donc ça, c'est l'aspect marketing. On avait également parlé d'un aspect conception. Et moi, j'ai une question précise sur les histoires de conception. On sait effectivement que tous les industriels du luxe utilisent la conception assistée par ordinateur, mais je me suis demandé quel était le facteur rapidité d'exécution, agilité, et notamment agilité dans le contexte compétitif d'une copie, notamment venue d'Asie, qui est de plus en plus véloce. Est-ce que ça fait partie de l'équation?
Alors, c'est deux sujets hyper importants, même trois. Le premier sujet, c'est comment je développe ce qu'on appelle le time to market, un time to market très rapide quand je lance un nouveau produit. Le deuxième sujet, c'est aussi comment je fabrique vite en termes de délai de fabrication. Et puis, le troisième sujet, c'est effectivement la traçabilité pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux. Donc, je vais parler des trois, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trois convergent vers un même sujet qui est la donnée. Et depuis une dizaine d'années, une des révolutions de l'horlogerie, en fait, l'horlogerie, si je prends ce marché-là, c'est un secteur qui est quand même plutôt cyclique, même s'il est très en croissance à nouveau depuis 10 ans, mais il y a eu des chutes très fortes de marché. Donc, quand vous avez un secteur comme ça, l'inconvénient, si vous avez des délais de développement et de fabrication longs, c'est que vous êtes en train de lancer des nouveaux modèles et vous êtes en train de fabriquer des modèles pour dans 2 ans, parce que parfois c'est jusqu'à 2 ans pour fabriquer une montre, de bout en bout. Ouais. Et en fait, si d'un seul coup le marché se casse la figure, vous avez lancé tout un tas de choses qui en fait que vous ne pouvez pas vendre, donc ça vous crée énormément de stock et donc le choc de marché est d'autant plus abrupt. Et donc, il faut être capable de s'adapter à ça. Donc, comment est-ce que la tech permet de faire ça? Sur la partie développement produit, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié finalement fondamentalement à la façon avec laquelle je développe les produits, qui ressemble à ce que font les Apple et les Tesla, c'est de se dire que je vais plutôt me différencier sur des choses qui se voient. La même chose pour une montre, où en fait, je vais pas potentiellement développer 50 mouvements de montre différents qui, eux, se voient pas, mais je vais plutôt en faire quelques-uns. Et puis, donc, je vais réduire la diversité là-dessus. Mais par contre, je vais augmenter la diversité sur le cadran, sur les aiguilles, sur etc. Donc, ça, c'est un premier aspect. Donc, qui est pas forcément que lié à la data, mais quand même, qui est une philosophie qui est un peu la même que celle qu'ont les GAFAM. Et après, sur la partie données, c'est comment est-ce que je réduis mon cycle de développement en ayant une collaboration beaucoup plus forte entre les métiers, à la fois sur le développement produit et sur la fabrication. Et là, la donnée aide énormément parce que quand je fais mon dessin de mouvement, il s'insère en fait dans un boîtier de montre qui lui-même va s'interfacer avec un bracelet, avec un cadran, etc. Et donc, il faut que je sois capable, dans mon design, de m'interfacer beaucoup plus avec les autres métiers. Et historiquement, c'était plutôt très long. On avait jusqu'à 1 ou 2 ans pour définir une nouvelle montre. Ça a été largement réduit depuis qu'il y a l'apport du digital pour la collaboration, pour améliorer le pilotage. Sur la fabrication, c'est pareil. En fait, on est parti sur des cycles qui étaient de plus de 2 ans entre le moment où je taille la première pièce et puis le moment où la montre sort de l'usine à des cycles qui sont de 3-4 mois. Donc, on a complètement réduit ces cycles de fabrication pour justement s'adapter beaucoup plus au marché et être capable d'innover plus vite et puis de mieux répondre aux attentes des clients. Toujours la même chose, c'est je comprends mieux ce que veulent mes clients en temps réel. Si du coup, je vois que ça change d'un mois sur l'autre, mon appareil de production va aider à être agile et va pas être un frein parce qu'en fait, si je mets 2 ans à fabriquer, même si j'ai compris le marché, je peux faire le prochain mouvement que dans 2 ans. Quoi.
Puisqu'on parle de l'horlogerie, à titre personnel, je suis fan d'horlogerie parce que j'ai 2 très belles montres que j'ai achetées il y a très longtemps, une Rolex et une Omega. Et maintenant, je porte une Apple Watch parce que c'est très pratique et très commode. Et les montres Apple sont les plus vendues au monde. Qu'est-ce que ça dit sur le futur de l'industrie? Avec une question subsidiaire qui est qu'une marque comme Tag Heuer propose des montres connectées, est-ce qu'une marque comme Tag Heuer a une toute petite chance de pouvoir se tailler son marché qui va donc être à l'intersection de la belle montre et de la montre connectée sur lequel Apple règne en maître?
Alors, la façon avec laquelle tu formules ta question est la bonne façon de voir le sujet, je pense, parce que la question qui est derrière, c'est est-ce que la montre est un bijou ou est-ce que c'est un appareil qui donne l'heure, qui sert à autre chose. Et je pense qu'en fait, il y a eu, dans les années 2010, quand, enfin, l'Apple Watch, quand elle est sortie, j'avoue que je bossais déjà dans ces maisons de luxe, il y a eu un peu un vent de panique sur ce côté-là. Donc, dans un premier temps, il y a eu pas mal de maisons qui se sont positionnées là-dessus en se posant la question de est-ce qu'on fait des montres connectées comme Apple, est-ce qu'on court après Apple, est-ce qu'on fait des bracelets connectés qui eux-mêmes se connectent à un mouvement, qui est un mouvement ancien, etc. Donc, tout un tas de tentatives qui, de ce que j'en ai vu, était assez peu fructueux. Et après, finalement, je pense qu'il y a eu une sorte de doctrine qui a été prise par les maisons de luxe et une sorte de compréhension que une montre est plutôt un bijou, en tout cas sur le haut de gamme. Je pense que l'objectif d'Apple avec l'Apple Watch, c'est pas de faire un objet qui donne l'heure, c'est un objet qui va permettre de payer, qui va permettre de récolter des données de santé, qui ouvre un marché énorme sur la santé. Donc le vrai marché d'Apple, je sais même pas si chez Apple les gens se disent on va disrupter Tag Heuer ou Vacheron Constantin ou Cartier.
Ils créent un nouveau marché.
Eux créent un marché qui va leur permettre de se dire je vais aller récupérer des données de santé des gens versus des marques de luxe qui elles sont plutôt sur je vends des bijoux. Donc je pense qu'il y a eu cette crainte qui après s'est transformée en non, on est solide sur nos appuis parce que nous on vend des bijoux. Sur le haut de gamme. Donc, ce que j'appelle le haut de gamme, c'est des montres qui valent plus de 10 000 euros. Mm-hmm. Ce qui est compliqué, c'est pour les marques de milieu de gamme, dont font partie, par exemple, les Tag Heuer, Omega, etc. C'est des montres qui valent entre 1 000 et 10 000 euros. Oui. Parce que eux, effectivement, ils sont sur un marché où le prix s'approche du prix d'une Apple Watch et où les gens, quand ils vont faire l'acte d'achat, ils peuvent avoir la tentation de se dire, est-ce que j'achète cette montre-là ou est-ce que j'achète plutôt l'Apple Watch parce que ça mesure mes pas, ça mesure, etc. Et là, effectivement, il y a une concurrence. Et d'ailleurs, on voit que pendant toutes les crises, les marques de très haut de gamme continuent tout le temps à croître dans les quartiers, etc. Et puis les marques de milieu de gamme ont plus de mal, en fait, parce que justement, elles sont beaucoup plus attaquées par le bas, par des.
Alors, par exemple, pour être très concret, une marque comme Tag Heuer qui appartient à LVMH, comment Tag Heuer gère-t-il sa gamme? Est-ce qu'ils se disent, bon, le bas de gamme, pas le bas de gamme, mais on va dire le milieu de gamme, la montre, on va dire, à 800 000 euros, ce qui fait quand même déjà pas mal d'argent. Je vais laisser tomber parce que, de toute façon, Apple me bouffe là-dessus et leur performance technologiques et commerciales sont absolument invraisemblables. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à se concentrer sur le haut de gamme. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? C'est-à-dire que ça, une marque comme Apple, est-ce qu'elle a tendance à pousser les marques de luxe vers le haut de gamme?
Alors, c'est ce que, en général, toutes les maisons essayent de faire, puisqu'on sait très bien que le haut de gamme est plus rentable.
Quand on dit plus rentable, d'ailleurs, quel est l'ordre de grandeur sur une montre à 10 000 euros, quel est le prix de revient de la montre?
Alors après, c'est ce qu'ils appellent le ratio, en fait, dans luxe, ce qu'on appelle le ratio, c'est en fait combien ça coûte à fabriquer versus combien ça s'est vendu.
Nous, chez les ploucs, on appelle ça la marge.
Oui. Alors en fait, je mets quand même un bémol, c'est que c'est la marge vraiment opérationnelle, parce qu'il y a quand même, le coût de la distribution est très important dans le luxe. Donc,
et le marketing.
Voilà, le marketing, c'est l'essentiel. Mais les ratios, alors accroche-toi à ton siège, parce que les ratios, ils varient entre 5 et 50. Donc, il y a parfois des ratios énormes.
Attends.
Entre x5 et x50 sur certains produits. Donc, le x50, c'est pas la majorité, je veux pas.
D'accord.
Mais en gros, c'est plutôt 5 ou 10. Entre le coût de fabrication et le coût de vente. Par contre, attention, la distribution.
Attends, tu veux dire que une montre à 10 000 euros, par exemple, c'est le prix d'une Rolex aujourd'hui, elle va à peu près à 10 000.
Ouais.
Elle revient à 2000 à fabriquer.
Si on prend le coût uniquement de la matière première et de la transformation de la matière, on va arriver à peu près à 2000-3000 euros. Par contre, la distribution de marketing, ça coûte une grosse partie de ce qui reste. Donc je pense que la marge, elle est plutôt autour de 20-30% que de 90%.
Il y a un sujet que je voulais aborder qui est tout ce qui est sécurité et traçabilité. Aujourd'hui, il est absolument essentiel pour les marques de luxe de ne pas être associées au travail des enfants ou à des conditions de production moralement inadmissibles. Qu'est-ce que la technologie apporte par rapport à ce problème-là?
Ah, c'est un sujet super intéressant et effectivement, pour le bosser avec eux au quotidien, je peux témoigner que c'est vraiment une de leurs préoccupations majeures. Parce que derrière traçabilité, il y a trois concepts. Il y a la qualité, s'assurer qu'on fait du bon à chaque étape. Bon, ça, c'est important. Derrière la traçabilité, il y a les aspects éthiques. Donc, est-ce qu'on fabrique en local? Et est-ce qu'effectivement, on respecte, par exemple, est-ce qu'on ne fait pas travailler des Ouïghours, etc. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, il y a quand même la planète. C'est-à-dire, comment est-ce que je trace qu'à toutes les étapes, en fait, je ne vais pas avoir des process qui vont consommer trop de CO2 et qu'il y a de plus en plus de lois, notamment en Europe, qui vont inciter de plus en plus les fabricants, donc dans toute l'industrie, à pouvoir attester du CO2 à chaque étape de la transformation d'un produit. Donc ça, c'est les trois volets qui sont liés à la traçabilité. L'aspect éthique, c'est fondamental. Il y a deux dimensions. Il y a un, comment est-ce que je fais pour être quand même relativement intégré? Donc, quand j'appelle intégré, c'est-à-dire que je fabrique quand même... Ces maisons-là fabriquent toutes. Elles fabriquent pas tous les produits, mais elles ont toutes des capacités de fabrication en France ou en tout cas en Europe. Alors, en gros, les trois gros pays, c'est France, Suisse et Italie. Mm-hmm. Et il y a quand même 80% de la valeur ajoutée qui est faite dans ces trois pays. Et ça, je peux en attester. Donc d'abord, c'est d'en faire une partie en interne pour garder les savoir-faire et pour s'assurer que quand c'est moi qui fabrique, je suis sûr de l'éthique que je mets dans mon produit. C'est d'avoir un réseau de sous-traitants dont je suis très proche. parfois de manière capitalistique, parfois avec un partenariat en fait commercial, et donc de pouvoir bien comprendre ce que font ces sous-traitants, de s'assurer qu'ils respectent le droit du travail local et même les valeurs éthiques de la marque. La difficulté souvent, elle est plutôt sur ce qu'on appelle les rangs 2 et 3, voilà. 4. C'est-à-dire que vous connaissez bien vos fournisseurs directs, mais en fait, leurs fournisseurs à eux, comment est-ce que je fais pour bien les connaître? Donc il y a plusieurs...
Oui, parce que pour être très concret, autant il doit être relativement facile de tracer l'origine d'un composant important d'un objet de luxe, autant la boucle du sac à main d'un sac Chanel, il doit être extrêmement difficile d'être certain qu'elle n'est pas fabriquée dans une usine pourrie de la banlieue de Hong Kong.
Et c'est là où la donnée est hyper importante. C'est là où on connecte avec le sujet du jour qui est comment en interne j'ai une structure de données suffisamment bien pensée déjà pour bien suivre ce qui se passe en interne en termes de traçabilité. Et c'est encore difficile aujourd'hui, hein, même en interne dans les boîtes de luxe, de se dire je connecte les usines les unes avec les autres parce que souvent c'est un flux avec plusieurs usines. Et je connecte ça avec mon entrepôt, ma boutique et puis mon client final. Donc ça déjà, c'est un vrai travail. Après, c'est comment je fais pour connecter ça, faire un pont avec mon fournisseur de rang 1 et avec les fournisseurs de rang 2 et 3. Donc, il y a tout un travail où le donneur d'ordre doit être capable de donner les bonnes données et du coup à mettre tout ça en fait sur une seule structure de données pour être capable de tracer de bout en bout. Ça, c'est le premier volet. Et puis après, il faut être capable de suivre ses fournisseurs en envoyant tout simplement des gens qui vont aller faire des visites de terrain dans les usines. Et ce dont je peux attester, c'est qu'il y a des armées de personnes dans ces maisons-là.
Mais ça, je veux bien le croire. Mais est-ce qu'il y a des technologies qui permettent quand même d'améliorer ça?
Alors, il y a plusieurs types de technologies qui sont en train de monter et qui sont, alors, notamment évidemment la blockchain, qui est alors ça, c'est le gros sujet pour le futur, mais c'est pas encore utilisé.
Donne-nous un exemple très concret. Blockchain, luxe, comment ça marche?
Alors, très concrètement, c'est ce qu'on appelle le fait d'avoir la preuve en fait que le produit respecte les normes éthiques sans forcément avoir le détail en fait de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un système en fait décentralisé, exactement comme le Bitcoin, etc., où en fait, on va pouvoir avoir une preuve de respect d'un certain nombre de normes sans forcément pouvoir tracer très précisément tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Ouais. C'est des startups qui proposent ces solutions-là et qui vont permettre de simplifier cette chaîne pour qu'on ait ce certificat qui atteste en fait de l'origine du produit. Donc, je prends un exemple. Je suis un fournisseur de rang 3 de Louis Vuitton. Si je veux pouvoir fournir les bonnes données à Louis Vuitton sur comment j'ai fabriqué mes produits, ça veut dire que je dois descendre jusqu'à la machine de fabrication, le centre d'usinage par exemple, et que chacune des étapes elle-même fournit la donnée de j'ai fait cette pièce de telle manière avec tel paramètre à telle heure, etc. Cette donnée-là, où est-ce que je l'enregistre? Comment est-ce que je la transmets derrière? Et comment est-ce que je vais à l'unité? Parce que souvent, je fais des tailles de lot. Donc, je fais 100 pièces d'un coup. Mais ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir tracer chacune de ces 100 pièces pour savoir ce qui s'est passé sur chacune de ces 100 pièces. Donc, il y a encore un travail qui est en cours pour justement que chaque étape opérationnelle fasse ce travail, de simplifier ces données, de pouvoir les poster sur une plateforme et qu'elles soient accessibles au reste de la supply chain. C'est un travail qui est en cours, mais encore loin d'être atterri parce que ça nécessite que chaque industriel de la chaîne se transforme et soit capable justement de fournir des données de qualité.
Tu m'avais parlé également de l'impact de l'intelligence artificielle. Très concrètement, comment ça se matérialise?
Alors, je vais te donner un exemple. Il y a quelques cas d'usage qui sont émergents et notamment dans le luxe, évidemment, un des aspects très importants, j'en parlais tout à l'heure, c'est la qualité. Et donc, s'assurer qu'on fait bon du premier coup tout au long du flux et puis que le client, il a un produit de qualité à la fin. Pour réussir à faire ça, dans le luxe, il y a énormément de contrôles qui sont faits tout du long pour s'assurer que mon produit il est pareillé, que mon cuir il est parfait exactement, enfin que j'ai choisi les bons endroits de la peau de l'animal, etc. On commence à avoir des cas d'usage en usine où en fait on va utiliser ce qu'on appelle la computer vision, donc des caméras derrière lesquelles on fait tourner des algorithmes en disant ça c'est une pièce bonne, ça c'est une pièce pas bonne, etc. Donc ça c'est, on entraîne l'algorithme avec l'œil humain des experts, des artisans qui ont l'habitude de voir les défauts et ensuite l'algorithme lui-même va être capable de qualifier des pièces même si on les fait tourner à haute cadence pour se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'avantage de cette technologie c'est un, de s'assurer qu'on a quelque chose de très normé sur la qualité parce que l'IA, une fois qu'elle est entraînée, elle va être constante en fait sur ce qu'elle va avoir ou pas avoir. Et le deuxième aspect, c'est un aspect vraiment d'efficience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la masse de main-d'œuvre qui est dédiée au contrôle dans le système industriel, ça peut représenter jusqu'à 10 à 20% du total. Et donc, vous avez évidemment des gains assez significatifs à faire tout simplement sur la performance des sites industriels.
Comment mesure-t-on le succès de cette irruption de la technologie dans le luxe? Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés, est-ce qu'ils ont été respectés et quels sont les objectifs quantitatifs pour les 5 prochaines années, par exemple?
Le succès, je pense, sur la partie compétitivité, il y a deux choses. T'en as parlé, c'est l'agilité. Donc, c'est comment, grâce à la technologie, je réduis la durée de mes cycles, time to market. Et là, c'est assez spectaculaire et on peut encore gagner. D'après moi, on peut encore aller chercher 30 ou 40% sur les cycles de développement.
On a déjà réduit de combien
La plupart des maisons ont déjà fait un effort de réduction de quasiment 50% de ces
cycles. C'est énorme.
C'est énorme, c'est la révolution qu'a fait l'automobile dans les années 80, qui est en train d'arriver dans le luxe, mais grâce au digital, ça va beaucoup plus vite.
D'accord.
Ça, c'est le premier volet. Il y a un volet sur l'efficience, donc, dont je parlais aussi à l'instant avec l'IA, où en fait, on va pouvoir gagner, là, on est plutôt sur des 15-20% de ce que me coûte la fait de fabriquer un produit, parce que l'intelligence artificielle, c'est la maîtrise des procédés, c'est le contrôle qualité, c'est la maintenance prédictive des machines. Puis après, sur l'aspect marketing, on en a parlé pas mal, c'est comment est-ce que, grâce au digital, je vais aller chercher potentiellement des personnes à qui j'avais pas accès avant. Donc, comment ça m'ouvre des potentialités de marché supplémentaires. Habituellement, quand on accompagne les industriels là-dessus, au-delà du luxe, c'est plutôt entre 10 et 15% de relais de croissance supplémentaires quand on va se mettre sur des nouveaux modèles d'affaires liés au digital et à la tech qui vont permettre de vendre des choses différentes en fait, de ce qu'on vend habituellement à ses clients.
C'est une question de survie pour l'industrie du luxe, notamment française, de se digitaliser à ce point-là, notamment face à la Chine.
Ouais, je pense que la survie, elle est sur deux éléments que tu as abordés. C'est la traçabilité, tu en as parlé, c'est effectivement fondamental.
Ouais.
C'est de pouvoir attester que mon produit a été fait dans des conditions éthiques. Ça peut carrément, je pense, tuer une maison. C'est-à-dire que s'il y a un scandale un jour sur une maison où on se rend compte qu'il y a des enfants qui ont travaillé, je pense que ça peut faire très
Jours, là, la maison peut être mise à mal. Hein.
Voilà, donc ça, c'est très important. Et le deuxième aspect, c'est quand même sur l'environnement, où en fait, ces maisons-là, on voit qu'elles ont de plus en plus besoin de communiquer là-dessus et de faire des choses là-dessus. Et je pense que vu que la nouvelle génération, maintenant, ce qu'on appelait la nouvelle génération, maintenant, ils ont 30, 35 ans, voilà, et donc c'est eux qui commencent à acheter des produits de luxe, on peut pas faire l'impasse de cet aspect-là dans la marque.
Très bien. Merci beaucoup, Mickaël. Toujours un plaisir de t'avoir. À bientôt.
À écouter Mickaël Valentin, ce sont donc les 30-35 ans qui dictent l'évolution du marché du luxe. Ils vont de plus en plus acheter en ligne, ils vont être toujours plus exigeants sur l'origine et l'impact des produits. Le secteur du luxe n'est donc pas figé, il va même connaître une mutation profonde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante, contrôlef@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.